Chapitre 15. La voie douloureuse. Cependant, la famille royale continuait son chemin vers Paris, suivant ce que nous pouvons appeler la voie douloureuse. Hélas, Louis XVI et Marie-Antoinette eurent eux aussi leur calvaire. Rachetèrent-ils par cette passion terrible les fautes de la monarchie, comme Jésus-Christ racheta les fautes des hommes? C'est le problème que le passé n'a pas encore résolu, mais que l'avenir nous apprendra peut-être. On avançait lentement, car les chevaux ne pouvaient marcher qu'au pas de l'escorte, et cette escorte, tout en se composant, dans sa plus grande partie, d'hommes armés, comme nous l'avons dit, de fourches, de fusils, de faux, de sabres, de piques, de fléaux, se complétait par une innombrable quantité de femmes et d'enfants. Les femmes élevant leurs enfants au-dessus de leur tête, pour leur faire voir ce roi qu'on ramenait de force vers sa capitale et qu'ils n'eussent probablement jamais vu sans cette circonstance. Et au milieu de cette multitude qui suivait la route en débordant les deux côtés dans la plaine, la grande voiture du roi, suivie du cabriolet de Madame Brunier et de Madame de Neuville, semblait, suivie de sa chaloupe, un vaisseau en perdition au milieu des vagues furieuses près de l'engloutir. De temps en temps, une circonstance inattendue faisait, qu'on nous permette de suivre la comparaison, que cet orage prenait une nouvelle force. Les cris, les imprécations, les menaces redoublaient. Les vagues humaines s'agitaient, s'élevaient, s'abaissaient, montaient comme une marée, et quelquefois, dans leur profondeur, cachaient entièrement le bâtiment qui les fendait à grand-peine de sa proue, les naufragés qu'ils portaient et la frêle chaloupe qu'ils traînaient à la remorque. On arriva à Clermont. Sans avoir vu, quoi qu'on eût fait, près de 4 lieues, la terrible escorte diminuait, ceux des hommes qui la composaient, que leurs occupations rappelées chez eux étaient remplacées par ceux qui accouraient des environs et qui voulaient jouir à leur tour du spectacle dont les autres étaient rassasiés. Parmi tous les captifs qu'emportait la prison ambulante, 2 étaient plus particulièrement exposés à la colère de la foule et en butte à ses menaces. C'étaient les malheureux gardes assis sur le large siège de la voiture. À chaque instant, et c'était une manière de frapper la famille royale que l'ordre de l'assemblée faisait inviolable, à chaque instant les baïonnettes étaient dirigées sur leur poitrine. Quelques faux, qui étaient bien certainement celles de la mort, s'élevaient au-dessus de leur tête, ou quelques lances qui se glissaient comme un serpent perfide entre les intervalles allaient mordre les chairs vivantes de son dard aigu, et revenait d'un mouvement aussi rapide, rapporté sous les yeux de son maître satisfait de ne pas avoir manqué son coup, sa pointe humide et rougie. Tout à coup, on vit avec étonnement un homme, sans chapeau, sans armes, les vêtements souillés de boue, fendre la foule, et, après avoir simplement adressé un salut respectueux au roi et à la reine, s'élancer sur l'avant-train de la voiture et prendre place sur le siège entre les 2 gardes du corps. La reine poussa à la fois un cri de crainte, de joie et de douleur. Elle l'avait reconnu Charny. De crainte, car ce qu'il faisait aux yeux de tous était tellement audacieux que c'était un miracle qu'il eût pris cette place dangereuse sans avoir reçu quelques blessures. De joie, car elle était heureuse de voir qu'il avait échappé à ces dangers inconnus, qu'il avait dû courir dans sa fuite, danger d'autant plus grand que la réalité, sans lui en spécialiser aucun, laissait l'imagination les lui offrir tous. De douleur, car elle comprenait que, puisqu'elle revoyait Charny seul et dans cet état, elle devait renoncer à tout espoir de secours venant de la part de Monsieur de Bouillé. Au reste, la foule, étonnée de l'audace de cet homme, semblait l'avoir respecté à cause même de son audace. Au bruit qui s'était fait autour de la voiture, Billot, qui marchait à cheval en tête de l'escorte, se retourna et reconnut aussi Charny. « Ah » murmura-t-il, « je suis bien aise qu'il ne lui soit rien arrivé. Mais malheur à l'insensé qui tenterait maintenant une pareille chose, car bien certainement il paierait pour 2. » On arriva à Sainte-Menehould vers les 2 heures de l'après-midi. La privation de sommeil pendant la nuit du départ, les fatigues et les émotions de la nuit qu'on venait de passer avaient agi sur tout le monde, et principalement sur le dauphin. En arrivant à Sainte-Menehould, le pauvre enfant était en proie à une fièvre terrible. Le roi ordonna de faire halte. Malheureusement, de toutes les villes échelonnées sur la route, Sainte-Menehould était peut-être la ville la plus ardemment soulevée contre cette malheureuse famille que l'on ramenait prisonnière. On ne fit donc aucune attention à l'ordre du roi, et un ordre contradictoire fut donné par Billot pour qu'on mît les chevaux à la voiture. On obéit. Le dauphin pleurait et demandait au milieu de ses sanglots « Pourquoi ne me déshabitons pas et ne me couche-t-on pas dans mon lit puisque je suis malade ?» La reine ne put tenir à ses plaintes et son orgueil fut un instant brisé. Elle souleva dans ses bras le jeune prince en larmes et tout frissonnant et le montrant au peuple. « Ah, monsieur, dit-elle, par grâce, pour cet enfant, arrêtez !» Mais les chevaux étaient déjà à la voiture. « En marche !» cria Billot. « En marche !» répéta le peuple. Et comme le fermier passait près de la portière pour aller reprendre sa place en tête du cortège, « Ah, monsieur !» s'écria la reine, s'adressant à Billot. « Je vous le répète, il faut que vous n'ayez pas d'enfant. » « Et moi, madame, je vous le répète à mon tour, » dit Billot, avec son regard et sa voix sombre, « que j'en ai eu, mais que je n'en ai plus. » « Faites donc comme vous voudrez, dit la reine, vous êtes les plus forts, mais prenez garde, il n'y a pas de voix qui crie plus haut malheur que la petite voix des enfants. » Le cortège se remit en route. La traversée de la ville fut cruelle. L'enthousiasme qu'excitait la vue de Drouet, à qui l'arrestation des prisonniers était due, eût été pour ceux-ci un terrible enseignement, s'il y avait un enseignement pour les rois. Mais dans ses cris, Louis XVI et Marie-Antoinette ne voyaient qu'une fureur aveugle. Dans ces hommes patriotes, convaincus qu'ils sauvaient la France, le roi et la reine ne voyaient que des rebelles. Le roi était atterré. La sueur de la honte et de la colère coulait sur le front de la reine. Madame Élisabeth, ange du ciel égaré sur la terre, priait tout bas, non pour elle, mais pour son frère, pour sa belle-sœur, pour ses neveux, pour tout ce peuple. La sainte femme ne savait point séparer ce qu'elle considérait comme des victimes de ceux qu'elle regardait comme des bourreaux, et, dans une même invocation, elle mettait les uns et les autres aux pieds du Seigneur. À l'entrée de Sainte-Menehould, le flot, qui, pareil à une inondation, couvrait toute la plaine, ne put s'engouffrer dans la rue étroite. Il écuma aux deux côtés de la ville et en suivit le contour extérieur. Mais comme on ne s'arrêta à Sainte-Menehould que le temps nécessaire au relais, à l'autre extrémité de la ville, il revint plus ardent battre la voiture. Le roi avait cru, et c'était cette croyance peut-être qu'il avait poussé dans une route mauvaise, le roi avait cru que l'esprit de Paris seul était fourvoyé. Il comptait sur sa bonne province. Voilà que sa bonne province non seulement lui échappait, mais encore se tournait impitoyable contre lui. Cette province, elle avait effrayé monsieur de Choiseul à Pont-de-Sommevel. Elle avait emprisonné monsieur d'Andouin à Sainte-Menehould. Elle avait tiré sur monsieur de Damas à Clermont. Elle venait de tuer Isidore sous les yeux du roi. Tout se soulevait contre cette fuite, même le prêtre que le chevalier de Bouillé avait renversé du talon de sa botte au revers de la route. Et c'eût été bien pis si le roi eût pu voir ce qui se passait au lieu même, villes et villages, où la nouvelle arrivait qu'il venait d'être arrêté. À l'instant même, la population se soulevait. Les femmes prenaient dans leurs bras les enfants au maillot. Les mères tiraient par la main ceux qui pouvaient marcher. Les hommes se chargeaient d'armes. Autant ils en avaient, autant ils en suspendaient autour d'eux ou en portaient sur leurs épaules. Ils étaient décidés, non pas à faire escorte au roi, mais à tuer le roi. Ce roi qui, au moment de la récolte, une triste récolte que celle de la pauvre Champagne aux abords de Châlons, si pauvre que dans son langage expressif le peuple l'appelle la champagne pouilleuse, ce roi qui, au moment de la récolte, allait chercher, pour qu'ils la foulassent aux pieds de leurs chevaux, le pandour pillard, le hussard voleur, mais trois anges gardaient la voiture royale, le pauvre dauphin tout malade et tout grelottant sur les genoux de sa mère, Madame Royale, qui, belle de cette beauté éclatante des rousses, se tenait debout à la portière, regardant tout cela de son œil étonné, mais ferme, Madame Élisabeth, enfin, déjà âgée de 27 ans, mais à qui la chasteté du corps et du cœur mettait autour du front l'auréole de la plus pure jeunesse. Ces hommes voyaient tout cela, plus cette reine courbée sur son enfant, plus ce roi abattu, et leur colère s'en allait, demandant quelque autre sujet sur lequel elle pût s'abattre. Ils criaient contre les gardes, ils les injuriaient, ils les appelaient, ces cœurs nobles et dévoués, cœurs de lâches et cœurs de traîtres. Puis, sur toutes ces têtes exaltées, la plupart nues, la plupart échauffées par le mauvais vin des cabarets, tombait l'aplomb du soleil de juin, faisant un arc-en-ciel de flammes dans la poussière crayeuse que tout cet immense cortège soulevait le long du chemin. Qu'eût-il dit ce roi, qui peut-être s'illusionnait encore, s'il eût vu un homme partir de Mézières, son fusil sur l'épaule, faire 60 lieues en 3 jours pour tuer le roi, le joindre à Paris, et à Paris, le voyant si pauvre, si malheureux, si humilié, secouer la tête et renoncer à son projet? Qu'eût-il dit s'il eût vu un jeune menuisier, ne doutant pas qu'après sa fuite le roi ne fût immédiatement mis en jugement et condamné, partir du fond de la Bourgogne et s'élancer par les routes pour assister à ce jugement et entendre cette condamnation? En route, un maître menuisier lui fait comprendre que ce sera plus long qu'il ne croit, le retient pour fraterniser avec lui. Le jeune menuisier s'arrête en effet chez le vieux maître et épouse sa fille. Ce que voyait Louis XVI était plus expressif peut-être, mais moins terrible, car nous avons dit comment le triple bouclier de l'innocence repoussait de lui la colère et la renvoyait contre ses serviteurs. En sortant de Sainte-Menehould, à une demi-lieue de la ville peut-être, on vit arriver à travers champs, au grand galop de son cheval, un vieux gentilhomme, chevalier de Saint-Louis. Il portait sa croix à sa boutonnière. Un instant, sans doute, le peuple crut que cet homme accourait, conduit par la simple curiosité, et lui fit place. Le vieux gentilhomme s'approcha de la portière, le chapeau à la main, saluant le roi et la reine et les appelant « Majesté ». Le peuple venait de mesurer où était la véritable force et la majesté réelle. Il s'indigna qu'on donnât à cet prisonnier un titre qui lui était dû, à lui. Il commença à gronder et à menacer. Et déjà, le roi avait appris à connaître ces grondements-là. Il les avait entendus autour de la maison de Varennes. Il devinait leur signification. « Monsieur, dit-il au vieux chevalier de Saint-Louis, la reine et moi, nous sommes bien touchés de la marque de dévouement que vous venez de nous donner d'une manière aussi publique, mais au nom de Dieu, éloignez-vous, votre vie n'est pas en sûreté. »« Ma vie est au roi, dit le vieux chevalier, et le dernier jour de ma vie en sera le plus beau si je meurs pour mon roi. » Quelques-uns entendirent ces paroles et grondèrent plus haut. « Retirez-vous, monsieur, retirez-vous !» cria le roi. Et puis, se penchant en dehors, « Mes amis, dit-il, faites place, je vous prie, à monsieur de Dampierre. » Les plus proches, ceux qui entendirent la prière du roi, y obtempérèrent et firent place. Malheureusement, un peu plus loin, cheval et cavalier se trouvèrent pressés. Le cavalier excita son cheval de la bride et de l'éperon, mais la foule était tellement compacte qu'elle n'était pas maîtresse elle-même de ses mouvements. Quelques femmes froissées crièrent, un enfant épouvanté pleura, les hommes montrèrent le poing, le vieillard obstiné montra son fouet, alors les menaces se changèrent en rugissements. Cette grande colère populaire et léonine éclata. Monsieur de Dampierre était déjà sur la lisière de cette forêt d'hommes. Il piqua son cheval des deux, le cheval franchit bravement le fossé et partit au galop à travers terre. En ce moment, le vieux gentilhomme se retourna et, mettant le chapeau à la main, « Vive le roi ! » cria-t-il. Dernier hommage à son souverain, mais suprême insulte à ce peuple. Un coup de feu retentit. Lui tira un pistolet de ses fontes et rendit coup pour coup. Alors tout ce qui avait un fusil chargé tira à la fois sur cet insensé. Le cheval, criblé de balles, s'abattit. L'homme fut-il blessé et fut-il tué par l'effroyable décharge? On n'en sut rien. La foule se rua comme une avalanche vers l'endroit où l'homme et le cheval étaient tombés, à 50 pas à peu près de la voiture du roi. il se fit un de ces mouvements comme il s'en fait autour des cadavres, des mouvements désordonnés, un chaos informe, un gouffre de cris et de clameurs. Et puis, tout à coup, au bout d'une pique, on vit surgir une tête à cheveux blancs. C'était celle du malheureux chevalier de Dampierre. La reine poussa un cri et se jeta dans le fond de la voiture. « Monstre, cannibale, assassin !» hurla Charny. « taisez-vous, monsieur le comte, » dit Billot. « Sans cela, je ne répondrai plus de vous. »« Soit, » dit Charny, « je suis là de la vie. Que peut-il m'arriver de pire qu'à mon pauvre frère ?»« Votre frère, » dit Billot, « était coupable, et vous ne l'êtes pas. » Charny fit un mouvement pour sauter à bas du siège. Les deux gardes du corps le retinrent. 20 baïonnettes se tournèrent vers lui. « Ami, » dit Billot de sa voix forte et imposante, « quelque chose que fasse ou dise celui-ci, » et il montra Charny, « je défends qu'il tombe un cheveu de sa tête, je réponds de lui à sa femme. »« À sa femme ?» murmura la reine en tressaillant, comme si une des baïonnettes qui menaçait Charny l'eût piquée au cœur. « À sa femme ? Et pourquoi ?» Pourquoi ? Billot n'aurait pu le dire lui-même. Il avait invoqué le nom et l'image de la femme de Charny, sachant combien sont puissants ces noms-là sur les foules qui se composaient à tout prendre de père et d'époux. On arriva tard à Châlons. La voiture entra dans la cour de l'intendance. Des courriers avaient été envoyés d'avance pour faire préparer les logements. La cour était encombrée par la garde nationale et par les curieux. On fut obligé de faire écarter les spectateurs pour que le roi pût descendre de voiture. Il descendit le premier, puis la reine, portant le dauphin dans ses bras, puis Madame Élisabeth et Madame Royale, enfin Madame de Tourzel. Au moment où Louis XVI mettait le pied sur l'escalier, un coup de fusil partit et la balle siffla aux oreilles du roi. Y avait-il intention régicide? Était-ce un simple accident? « Bon, » dit le roi en se retournant avec beaucoup de calme, « voilà un maladroit qui a laissé partir son fusil. » Puis, à haute voix, « il faut faire attention, messieurs, » ajouta-t-il, « un malheur est bientôt arrivé. » Charny et les deux gardes du corps suivirent sans empêchement la famille royale et montèrent derrière elle. Mais déjà, à part le malencontreux coup de fusil, il avait semblé à la reine qu'elle entrait dans une atmosphère plus douce. À la porte où s'était arrêté le cortège tumultueux de la grande route, les cris aussi s'étaient arrêtés. Un certain murmure de compassion s'était même fait entendre au moment où la famille royale avait descendu de voiture. En arrivant au premier, on trouva une table aussi somptueuse que possible et servie avec une élégance qui fit que les prisonniers se regardèrent tout étonnés. Des domestiques étaient là, attendant. Mais Charny réclama pour lui et les deux gardes du corps le privilège du service. Sous cette humilité, qui aujourd'hui pourrait paraître étrange, le comte cachait le désir de ne point quitter le roi, de rester à sa portée et de se tenir prêt à tout événement. La reine comprit, mais elle ne se tourna pas même de son côté, mais elle ne le remercia ni de la main, ni du regard, ni de la parole. « Ce mot de Billot, je réponds de lui à sa femme, grondait comme un orage au fond du cœur de Marie-Antoinette. Charny, qu'elle croyait enlevée de France, Charny, qu'elle croyait expatriée avec elle, Charny revenait avec elle à Paris, Charny allait revoir André. Lui, de son côté, ignorait ce qui se passait dans le cœur de la reine. » Ces mots, il ne pouvait deviner qu'elle les eût entendus. D'ailleurs, son esprit commençait à concevoir quelques espérances. Comme nous l'avons dit, Charny avait été envoyé d'avance pour explorer la route, et il avait rempli sa mission en conscience. Il savait dans quel état d'esprit était le moindre village. Or, à Châlons, vieille ville sans commerce et peuplée de bourgeois, de rentiers, de gentilshommes, l'opinion était royaliste. Il en résulta qu'à peine les augustes convives furent-ils à table, leur hôte, intendant du département, s'avança et, s'inclinant devant la reine, qui ne s'attendait plus à rien de bon, le regardait avec inquiétude. « Madame, dit-il, ce sont les jeunes filles de Châlons qui sollicitent la grâce d'offrir des fleurs à votre majesté. » La reine se retourna tout étonnée vers Madame Élisabeth, puis vers le roi. « Des fleurs, dit-elle. Madame, reprit l'intendant, si le moment est mal choisi ou la demande trop hardie, je vais donner l'ordre que ces jeunes filles ne montent point. Non, non, monsieur, au contraire, s'écria la reine, ces jeunes filles, des fleurs, oh, laissez-les venir. L'intendant se retira, et un instant après, 12 jeunes filles de 14 à 16 ans, les plus jolies que l'on avait pu trouver dans la ville, parurent dans l'antichambre et s'arrêtèrent sur le seuil de la porte. « Oh, entrez, entrez, mes enfants !» cria la reine en leur tendant les bras. L'une des jeunes filles, interprète non seulement de ses compagnes, mais encore de leurs parents, mais encore de la ville, avait appris un beau discours qu'elle s'apprêtait à répéter. Mais à ce cri de la reine, à ses bras ouverts, à cette émotion de la famille royale, la pauvre enfant ne put trouver que des larmes, et ces mots, sortis du plus profond de sa poitrine, et qui résumaient l'opinion générale, « Oh, votre majesté, quel malheur !» La reine prit le bouquet et embrassa la jeune fille. Charny, pendant ce temps, se penchait à l'oreille du roi. « Sire, dit-il tout bas, peut-être y a-t-il bon parti à tirer de la ville. Peut-être tout n'est-il pas encore perdu. Si votre majesté veut me donner congé pour une heure, je descendrai et lui rendrai compte de ce que j'aurai vu, entendu et peut-être même fait. » « Allez, monsieur, dit le roi, mais soyez prudent. S'il vous arrivait malheur, je ne m'en consolerai jamais. Hélas, c'est assez bien déjà de deux morts dans la même famille. »« Sire, répondit Charny, ma vie est au roi comme l'était celle de mes deux frères. » Et il sortit, mais en sortant, il essuya une larme. Il fallait la présence de toute la famille royale pour faire de cet homme au cœur ferme mais tendre le stoïque qu'il affectait de paraître, et se retrouvant en face de lui-même, il se retrouvait en face de sa douleur. « Pauvre Isidore, murmura-t-il. » Et de sa main il pressa sur sa poitrine pour voir s'ils étaient toujours dans la poche de son habit ces papiers que monsieur de Choiseul lui avait apportés, qui avaient été trouvés sur le cadavre de son frère et qu'il se promettait bien de lire au premier moment de calme avec la même religion qu'il lui mise à lire un testament. Derrière les jeunes filles que madame Royale embrassa comme des sœurs se présentèrent les parents. C'étaient presque tous, ainsi que nous l'avons dit, ou de dignes bourgeois, ou de vieux gentilshommes. Ils venaient timidement, humblement, demander la grâce de saluer leur souverain malheureux. Le roi se leva lorsqu'ils passèrent, et de sa plus douce voix, la reine leur dit « Entrez ! » Était-on à Châlons, était-on à Versailles ? Était-ce quelques heures auparavant que les prisonniers avaient vu égorger, sous leurs yeux, le malheureux monsieur de Dampierre ? Au bout d'une demi-heure, Charny rentra. La reine l'avait vu sortir, la reine l'avait vu rentrer, mais il eût été impossible à l'œil le plus perçant de rien lire sur son visage du contre-coup que donnait à son âme cette sortie et cette rentrée. « Eh bien, demanda le roi, en se penchant du côté de Charny, « Eh bien, sire, répondit le comte, tout est pour le mieux. La garde nationale offre de reconduire demain votre majesté à Montmédy. » « Alors, dit le roi, vous avez décidé quelque chose ?»« Oui, sire, avec les principaux chefs. Demain, avant de partir, le roi demandera à entendre la messe. On ne peut refuser cette demande à votre majesté. C'est le jour de la fête Dieu. La voiture attendra le roi à la porte de l'église. En sortant, le roi montera dans la voiture, les vivats éclateront, et au milieu de ces vivats, le roi donnera l'ordre de tourner bride et de marcher sur Montmédy. » C'est bien, dit-il. Merci, monsieur de Charny. Si d'ici à demain rien n'est changé, nous ferons comme vous dites. Seulement, allez prendre du repos, vous et vos compagnons. Vous devez en avoir plus besoin que nous. Comme on le comprend bien, cette réception de jeunes filles, de bons bourgeois et de braves gentilshommes ne se prolongea pas fort avant dans la nuit. Le roi et la famille royale se retirèrent à 9 heures. Lorsqu'ils rentrèrent dans leur appartement, une sentinelle qu'ils virent à la porte rappela au roi et à la reine qu'ils étaient toujours prisonniers. Cependant, cette sentinelle leur présenta les armes. Au mouvement précis avec lequel se fit cet hommage à la majesté royale, même captive, le roi reconnut un vieux soldat. « Où avez-vous servi, mon ami ? » demanda-t-il au factionnaire. « Aux gardes françaises, sire, répondit celui-ci. » Alors, reprit le roi d'un ton sec, je ne suis pas surpris de vous voir là. Louis XVI ne pouvait oublier que dès le 13 juillet 1789, les gardes françaises avaient passé avec le peuple. Le roi et la reine rentrèrent chez eux. Cette sentinelle était à la porte même de la chambre à coucher. Une heure après, en descendant de garde, le factionnaire demanda à parler au chef de l'escorte. Ce chef, c'était Billot. Il soupait dans la rue avec les hommes qui étaient venus de différents villages bordant la route et essayait de les déterminer à rester le lendemain. Mais pour la plupart, ces hommes avaient vu ce qu'ils voulaient voir, c'est-à-dire le roi, et plus de la moitié tenaient à faire la fête Dieu dans son village. Billot s'efforçait de les retenir parce que les dispositions de la ville aristocratique l'inquiétaient. Eux, braves gens de la campagne, lui répondaient « Si nous ne rentrons pas chez nous, qui donc souhaiterait demain la fête au bon Dieu et tendrait les draps devant nos maisons ?» Ce fut au milieu de cette occupation que vint le surprendre la sentinelle. Tous deux causèrent bas et d'une façon animée. Puis Billot envoya chercher Drouet. La même conversation à demi-voix, animée et pleine de gestes, se renouvela. À la suite de cette conversation, Billot et Drouet allèrent chez le maître de poste, ami de ce dernier. Le maître de poste leur fit seller deux chevaux et, 2 minutes après, Billot galopait sur la route de Reims et Drouet sur celle de Vitry-le-Français. Le jour vint. À peine restait-il 600 hommes à l'escorte de la veille, les plus acharnés ou les plus las. Ils avaient passé la nuit dans la rue sur des bottes de paille qu'on leur avait apportées. En se secouant aux premières lueurs du matin, ils purent voir une douzaine d'hommes en uniforme qui entraient à l'intendance et qui, un instant après, en sortaient en courant. Il y avait à Châlons un quartier des gardes de la compagnie de Villeroy. Une douzaine de ces messieurs se trouvaient encore dans la ville. Ils venaient de prendre les ordres de Charny. Charny leur avait dit de revêtir leurs uniformes et de se trouver à cheval devant la porte de l'église au moment de la sortie du roi. Ils allaient se préparer à cette manœuvre. Comme nous l'avons dit, quelques-uns des paysans qui la veille avaient fait escorte au roi ne s'étaient point retirés le soir parce qu'ils étaient là, mais le matin ils comptèrent les lieues. Ceux-ci étaient à 10 lieues, ceux-là à 15 lieues de leur maison. 100 ou 200 partirent quelques instants ce que leur fissent leurs camarades. Les fidèles se trouvèrent donc réduits à 400 ou 450 tout au plus. Or, on pouvait compter sur un nombre égal au moins de gardes nationaux dévoués au roi, sans compter les gardes royaux et les officiers que l'on devait recruter, espèce de bataillon sacré prêt à donner l'exemple en s'exposant à tous les dangers. En outre, on le sait, la ville était aristocrate. Le matin, dès 6 heures, les habitants les plus zélés pour la cause royaliste étaient debout et attendant dans la cour de l'intendance. Charny et les gardes se tenaient au milieu d'eux et attendaient aussi. Le roi se leva à 7 heures et fit dire que son intention était d'assister à la messe. On chercha Drouet et Billot pour leur exposer le désir du roi, mais on ne les trouva ni l'un ni l'autre. Rien ne s'opposait donc à ce que ce désir s'accomplît. Charny monta chez le roi et lui annonça l'absence des deux chefs de l'escorte. Le roi s'en réjouit, mais Charny secoua la tête. S'il ne connaissait pas Drouet, en revanche, il connaissait Billot. Cependant, les augures paraissaient favorables. Les rues étaient encombrées, mais il était facile de voir que toute cette population était sympathique. Tant que les volets de la chambre du roi et de la chambre de la reine avaient été fermés, cette foule, pour ne pas troubler le sommeil des prisonniers, avait circulé à petit bruit et à pas sourd, levant les mains et les yeux au ciel, et si nombreuses qu'à peine voyait-on perdus dans ses rangs les 400 ou 500 paysans des environs qui avaient persisté à ne point rejoindre leur village. Mais dès que les volets s'ouvrirent chez les augustes époux, les cris de « Vive le roi et vive la reine !» retentirent avec une telle énergie que, sans s'être communiqué leurs pensées, d'eux-mêmes et chacun de son côté, le roi et la reine apparurent à leur balcon. Alors les cris furent unanimes et, une dernière fois encore, les deux condamnés du destin purent se faire illusion. « Allons, » dit d'un balcon à l'autre Louis XVI à Marie-Antoinette, « tout va bien. » Marie-Antoinette leva les yeux au ciel, mais ne répondit pas. En ce moment, les volées de la cloche annonçaient l'ouverture de l'église. Puis en même temps, Charny frappa légèrement à la porte. « C'est bien, dit le roi, je suis prêt, monsieur. » Charny jeta un coup d'œil rapide sur le roi. Il était calme, presque ferme. Il avait tant souffert qu'on eût dit qu'à force de souffrance, il perdait son irrésolution. La voiture attendait à la porte. Le roi, la reine et la famille royale y montèrent, entourés d'une foule pour le moins aussi considérable que la veille. Mais au lieu d'insulter les prisonniers, cette foule leur demandait un mot, un regard, se trouvait heureuse de toucher les pans de l'habit du roi, fière de baiser le bas de la robe de la reine. Les trois officiers reprirent leur place sur le siège, le cocher reçut l'ordre de conduire la voiture à l'église et obéit sans faire aucune observation. D'ailleurs, d'où eût pu venir le contre-ordre? Les deux chefs étaient toujours absents. Charny plongeait les yeux de tous côtés et cherchait en vain Billot et Drouet. On arriva à l'église. L'escorte des paysans avait bien repris son rang autour de la voiture, mais à chaque moment, le nombre des gardes nationaux augmentait. Au coin de chaque rue, ils débouchaient par compagnie. En arrivant à l'église, Charny estima qu'il pouvait disposer de 600 hommes. On avait réservé les places de la famille royale sous une espèce de dais, et quoiqu'il ne fût que 8 heures du matin, les prêtres commençaient une grande messe. Charny s'en aperçut. Il ne craignait rien tant qu'un retard, et un retard pouvait être mortel à ses espérances auxquelles il venait de se reprendre. Il fit prévenir l'officiant qu'il était essentiel que la messe ne durât pas plus d'un quart d'heure. « Je comprends, » fit répondre le prêtre, « et je vais prier Dieu pour qu'il accorde à leur majesté un heureux voyage. » La messe dura juste le temps indiqué, et cependant Charny tira plus de 20 fois sa montre. Le roi lui-même ne pouvait cacher son impatience. La reine, à genoux entre ses deux enfants, appuyait sa tête sur le coussin du prie-Dieu. Madame Élisabeth, calme et sereine comme une vierge d'albâtre, soit qu'elle ignorât le projet, soit qu'elle eût déjà remis sa vie et celle de son frère aux mains du Seigneur, ne donnait aucun signe d'impatience. Enfin, le prêtre, en se retournant, prononça les paroles sacramentelles « Ite, missa est ». Et, descendant les marches de l'autel, le ciboire à la main, il bénit en passant le roi et la famille royale. Ceux-ci s'inclinèrent de leur côté, et au désir qui se formulait dans le cœur du prêtre, répondirent tout bas « Amen ». Puis ils s'acheminèrent vers la porte. Tous ceux qui venaient d'entendre la messe avec eux s'agenouillaient sur leur passage. Les lèvres remuaient sans qu'aucun son sortît des bouches, mais il était facile de deviner tout ce que demandaient ces lèvres muettes. À la porte de l'église, on trouva les 10 ou 12 gardes à cheval. L'escorte royaliste commençait à prendre des proportions colossales. Et cependant, il était évident que les paysans, avec leur rude volonté, avec leurs armes, moins mortelles peut-être que celles des citadins, mais plus terribles à la vue, un tiers était armé de fusils, le reste de faux et de lances, il était évident que les paysans pouvaient, au moment décisif, peser d'un poids fatal dans la balance. Ce ne fut donc pas sans une certaine crainte que Charny, se penchant vers le roi à qui l'on demandait ses ordres, lui dit, pour l'encourager, « Allons, sire !» Le roi était décidé. Il passa la tête par la portière et s'adressant à ceux qui entouraient la voiture, « Messieurs, dit-il, hier à Varennes, on m'a fait violence. J'avais donné l'ordre d'aller à Montmédy et de force on m'a ramené vers une capitale révoltée. Mais hier j'étais au milieu de rebelles. Aujourd'hui je suis parmi de braves sujets et je répète à Montmédy, messieurs. » « À Montmédy !» s'écria Charny. « À Montmédy !» répétèrent les gardes et la compagnie de Villeroy. « À Montmédy !» répéta après eux toute la garde nationale de Châlons. Et puis un cœur général poussa le cri de « Vive le roi !» La voiture tourna à l'angle de la rue et reprit pour s'en aller le chemin qu'on avait suivi la veille pour venir. Charny avait les yeux sur cette population des villages. Elle semblait, en l'absence de Drouet et de Billot, commandée par ce garde française qui avait été de faction à la porte du roi. Il suivit, ou fit suivre silencieusement le mouvement par ces hommes, dont l'œil sombre indiquait assez qu'il goûtait peu la manœuvre qui s'exécutait. Seulement, ils laissèrent passer toute la garde nationale, se massant à la suite en arrière-garde. Au premier rang marchaient les hommes armés de piques, de fourches et de faux. Ensuite venaient 150 hommes à peu près, armés de fusils. Cette manœuvre, aussi bien exécutée que si elle l'eût été par des troupes habituées à l'exercice, inquiéta Charny. Mais il n'y avait aucun moyen de s'y opposer, et placé comme il l'était, il ne pouvait pas même en demander l'explication. L'explication lui fut bientôt donnée. À mesure que l'on avançait vers la porte de la ville, il semblait que, malgré le bruit de la voiture, malgré les rumeurs et les cris de ceux qui l'accompagnaient, on entendit quelque chose comme un roulement sourd qui allait augmentant. Tout à coup, Charny pâlit et posa la main sur le genou du garde du corps qui était près de lui. « Tout est perdu, dit-il. « Pourquoi cela ? » demanda le garde du corps. « Ne reconnaissez-vous pas ce bruit ? « On dirait le bruit du tambour. Eh bien, vous allez voir, dit Charny. » En ce moment, on tourna l'angle d'une place. Deux rues aboutissaient à cette place, la rue de Reims et la rue de Vitry-le-François. Par chacune de ces deux rues, tambours en tête, drapeaux déployés, s'avançaient deux troupes considérables de gardes nationaux. L'une de 1800 hommes à peu près, l'autre de 2500 à 3000. Chacune de ces deux troupes semblait commandée par un homme à cheval. L'un de ces hommes était Drouet, l'autre Billot. Charny n'eut besoin que de jeter un coup d'œil sur la direction que suivait chaque troupe pour comprendre. L'absence de Drouet et de Billot, absence inexplicable jusque-là, s'expliquait trop clairement. Sans doute avait-il été prévenu du coup qui se machinait à Châlons. Ils étaient partis, l'un pour hâter l'arrivée de la garde nationale de Reims, l'autre pour aller chercher la garde nationale de Vitry-le-Français. Leurs mesures avaient été prises de concert, tous deux arrivaient à temps. Ils firent faire halte à leurs hommes sur la place qu'ils barraient entièrement, et puis, sans autre démonstration, l'ordre fut donné de charger les armes. Le cortège s'arrêta. Le roi mit la tête à la portière. Il trouva Charny, debout, pâle, les dents serrées. « Qu'y a-t-il ? » demanda le roi. « Il y a, sire, que nos ennemis sont allés chercher du renfort et que, comme vous le voyez, on charge les armes, tandis que derrière la garde nationale de Châlons, les paysans se tiennent avec leurs armes toutes chargées. » « Que pensez-vous de cela, monsieur de Charny ?»« Je pense, sire, que nous sommes pris entre deux feux, ce qui n'empêche pas que si vous voulez passer, vous passerez, sire, mais seulement jusqu'où ira votre majesté, je n'en sais rien. »« C'est bien, dit le roi, retournons. »« Votre majesté est bien décidée. » « Monsieur de Charny, il a déjà assez coulé de sang pour moi, et du sang que je pleure avec des larmes bien amères. Je ne veux pas qu'il en soit versé une goutte de plus. Retournons. » À ces mots, les deux jeunes gens du siège s'élancèrent à la portière. Les gardes de la compagnie de Villeroy accoururent. Ces braves et bouillants militaires ne demandaient pas mieux que d'entrer en lutte avec les bourgeois, mais le roi répéta l'ordre plus positivement qu'il ne l'avait encore fait. « Messieurs, dit Charny à voix haute et impérative, retournons, le roi le veut !» Et lui-même, prenant la bride de son cheval, il fit faire un tête-à-queue à la lourde voiture. À la porte de Paris, la garde de Châlons, devenue inutile, céda sa place aux paysans, à la garde nationale de Vitry et à la garde nationale de Reims. « Trouvez-vous que j'ai bien fait, madame ?» dit Louis XVI à Marie-Antoinette. « Oui, monsieur, répondit celle-ci. Seulement je trouve que monsieur de Charny vous a obéi bien facilement. » Et elle tomba dans une sombre rêverie qui n'appartenait pas tout entière à la situation, si terrible qu'elle fût, dans laquelle on se trouvait. La voiture royale suivait tristement la route de Paris, surveillée par ces hommes sombres qui venaient de lui faire rebrousser chemin, lorsque, entre éperné et dormant, Charny put, grâce à sa grande taille et du haut du siège où il était placé, apercevoir une autre voiture venant de Paris au galop de 4 chevaux de poste. Charny devina immédiatement que cette voiture apportait quelque grave nouvelle ou amenait quelque personnage important. En effet, lorsqu'elle eut joint l'avant-garde de l'escorte, on vit, après 2 ou 3 paroles échangées, les rangs de cette avant-garde s'ouvrir et les hommes qui la composaient présenter respectueusement les armes. La berline du roi s'arrêta, et l'on put entendre de grands cris. Toutes les voix répétaient en même temps « Vive l'Assemblée nationale !» La voiture qui venait du côté de Paris continua son chemin jusqu'à ce qu'elle fût arrivée près de la berline du roi. Alors de cette voiture descendirent trois hommes, dont deux étaient complètement inconnus aux augustes prisonniers. Le troisième avait à peine mis la tête à la portière que la reine murmura à l'oreille de Louis XVI « Monsieur de la Tour Maubourg, l'âme damnée de Lafayette !» Puis, secouant la tête, « Cela ne nous présage rien de bon, » ajouta-t-elle. De ces trois hommes, le plus âgé s'avança et, ouvrant brutalement la portière de la voiture du roi, « Je suis Pétion, » dit-il, « et voici Monsieur Barnave et la Tour Maubourg, envoyés comme moi et avec moi par l'Assemblée nationale pour vous servir d'escorte et veiller à ce que la colère du peuple ne se fasse pas justice elle-même. Serrez-vous donc un peu et faites-nous place. » La reine lança sur le député de Chartres et ses deux compagnons un de ces coups d'œil dédaigneux comme il en tombait de temps en temps du haut de l'orgueil de la fille de Marie-Thérèse. Monsieur de la Tour Maubourg, gentilhomme courtisan de l'école de Lafayette, ne put supporter ce regard. « Leurs majestés sont déjà bien pressées dans cette voiture, dit-il, je monterai dans la voiture de suite. » « Montez où vous voudrez, » dit Pétion. « Quant à moi, ma place est dans la voiture du roi et de la reine, et j'y monte. » En même temps, il monta dans la voiture. Au fond étaient assis le roi, la reine et Madame Élisabeth. Pétion les regarda l'un après l'autre, puis s'adressant à Madame Élisabeth, « Pardon, madame, dit-il, mais comme représentant de l'Assemblée, la place d'honneur m'appartient. Ayez donc l'obligeance de vous asseoir sur le devant. Oh, »« Par exemple, » murmura la reine. « Monsieur, » fit le roi, « c'est comme cela. Allons, levez-vous, madame, et me donnez votre place. » Madame Élisabeth se leva et céda sa place en faisant à son frère et à sa belle-sœur un signe de résignation. Pendant ce temps, monsieur de la Tour Maubourg s'était esquivé et était allé demander une place aux deux dames du cabriolet avec plus de courtoisie, certainement, que ne venait de le faire Pétion à l'endroit du roi et de la reine. Barnave était resté dehors, hésitant encore à entrer dans cette berline où se trouvaient déjà pressées sept personnes. « Eh bien, Barnave, dit Pétion, ne venez-vous pas ?»« Mais où me mettre ?» demanda Barnave, un peu embarrassé. « Voulez-vous ma place, monsieur ?» demanda aigrement la reine. « Je vous remercie, madame, » répondit Barnave, blessé. « Une place sur le devant me suffira. » Par un même mouvement, Madame Élisabeth attira à elle Madame Royale, tandis que la reine prenait le dauphin sur ses genoux. De cette manière, une place se fit sur le devant de la voiture et Barnave se trouva en face de la reine, genou à genou avec elle. « Allons, » dit Pétion, sans demander l'autorisation au roi. « En route !» Et la voiture se remit en marche au cri de « Vive l'Assemblée nationale !» Le peuple venait à son tour de monter dans le carrosse du roi avec Barnave et Pétion. Quant à ses preuves, il les avait faites le 14 juillet, les 5 et 6 octobre. Il y eut un moment de silence, pendant lequel, à part Pétion, qui, enfermé dans sa rudesse, semblait indifférent à tout, chacun s'examina. Qu'on nous permette donc de dire quelques mots des personnages que nous venons d'introduire en scène. Jérôme Pétion, dit de Villeneuve, était un homme de 32 ans à peu près, aux traits vigoureusement arrêtés, et dont tout le mérite consistait dans l'exaltation, la netteté et la conscience de ses principes politiques. Il était né à Chartres, y avait été reçu avocat, et avait été envoyé à Paris comme membre de l'Assemblée nationale en 1789. Il devait être maire de Paris, jouir d'une popularité destinée à effacer celle des Bailly et des Lafayette et mourir dans les landes de Bordeaux, dévoré par les loups. Ses amis l'appelaient le vertueux Pétion. Lui et Camille Desmoulins étaient déjà républicains en France quand personne ne l'était encore. Pierre-Joseph-Marie Barnave était né à Grenoble. Il avait 30 ans à peine. Envoyé à l'Assemblée nationale, il s'y était acquis à la fois une grande réputation et une grande popularité en luttant avec Mirabeau au moment où baissaient la popularité et la réputation du député d'Aix. Tous ceux qui étaient les ennemis du grand orateur, et Mirabeau jouissait de ce privilège des hommes de génie d'avoir pour ennemi tout ce qui est médiocre, Tous les ennemis de Mirabeau s'étaient fait des amis de Barnave et l'avaient soutenu, soulevé, grandi dans les luttes orageuses qui avaient accompagné la fin de la vie de l'illustre tribun. C'était, nous parlons de Barnave, un jeune homme de 30 ans à peine, comme nous l'avons dit, et paraissant tout au plus 25, avec de beaux yeux bleus, une bouche grande, le nez retroussé et la voix aigre. Sa personne d'ailleurs était élégante, agresseur et duelliste, il semblait un jeune capitaine de guerre en bourgeois. Son aspect était sec, froid et méchant. Il valait mieux que de l'annoncer son aspect. Il appartenait au parti royaliste constitutionnel. Au moment où il prenait sa place sur le devant et s'asseyait en face de la reine, « Messieurs, dit Louis XVI, je commence par vous déclarer que mon intention n'a jamais été de quitter le royaume. » Barnave, à moitié assis, s'arrêta et regarda le roi. « Dites-vous vrai, sire ? » demanda-t-il. « En ce cas, voilà un mot qui sauvera la France. » Et il s'assit. Alors il se passa quelque chose d'étrange entre cet homme, parti de la bourgeoisie d'une petite ville de province, et cette femme, descendue à moitié d'un des plus grands trônes du monde. Tous deux essayèrent de lire dans le cœur l'un de l'autre, non pas comme deux ennemis politiques qui veulent y chercher des secrets d'État, mais comme un homme et une femme qui y cherchent des mystères d'amour. D'où venait dans le cœur de Barnave ce sentiment qui surprit, au bout de quelques minutes d'étude, l'œil perçant de Marie-Antoinette? Nous allons le dire et mettre au jour une de ces grandes tablettes du cœur qui font les légendes secrètes de l'histoire et qui, au jour des grandes décisions du destin, pèsent plus dans la balance que le gros livre des événements officiels. Barnave avait la prétention d'être en toute chose le successeur et l'héritier de Mirabeau. Or, à son avis, il était déjà le successeur et l'héritier du grand orateur à la tribune. Mais restait un autre point. Aux yeux de tous, nous savons, nous, ce qui en était, Mirabeau avait passé pour être honoré de la confiance du roi et de la bienveillance de la reine. Cette seule et unique conférence qu'avait obtenue le négociateur au château de Saint-Cloud avait été transformée en plusieurs audiences secrètes dans lesquelles la présomption de Mirabeau aurait été jusqu'à l'audace et la condescendance de la reine jusqu'à la faiblesse. À cette époque, il était de mode non seulement de calomnier la pauvre Marie-Antoinette, mais encore de croire à ses calomnies. Or, ce qu'ambitionnait Barnave, c'était la succession tout entière de Mirabeau, de là son ardeur à se faire nommer l'un des trois commissaires à envoyer près du roi. Il avait été nommé et il venait avec cette assurance d'un homme qui sait que, dans le cas où il n'aurait pas le talent de se faire aimer, il aura au moins la puissance de se faire haïr. Voilà ce que, avec son ray de coup d'œil de femme, la reine avait pressenti, presque deviné. Puis ce qu'elle devinait encore, c'était la préoccupation actuelle de Barnave. 5 ou 6 fois, dans l'espace d'un quart d'heure où Barnave se trouva vis-à-vis d'elle, le jeune député se retourna pour examiner avec une scrupuleuse attention les 3 hommes qui étaient sur le siège de la voiture, et du siège de la voiture, son regard redescendait, chaque fois plus dur et plus hostile sur la reine. En effet, Barnave savait que l'un de ces 3 hommes, lequel il ignorait, était le comte de Charny. Or, le bruit public donnait le comte de Charny pour amant de la reine. Barnave était jaloux, explique qui pourra ce sentiment dans le cœur d'un jeune homme, mais cela était ainsi. Voilà ce que la reine devina. Et du moment où elle l'eut deviné, elle fut bien forte. Elle connaissait le défaut de la cuirasse de son adversaire. Il ne s'agissait plus que de frapper et de frapper juste. « Monsieur, dit-elle, s'adressant au roi, vous avez entendu ce que disait cet homme qui conduit la voiture. »« À quel propos, madame ? » demanda le roi. « À propos de monsieur le comte de Charny. » Barnave tressaillit. Ce tressaillement ne put échapper à la reine qui touchait son genou du sien. « N'a-t-il pas déclaré, dit le roi, qu'il prenait sur lui la responsabilité de la vie du comte ?» Justement, monsieur, il a ajouté qu'il répondait de cette existence à la comtesse. Barnave ferma les yeux à moitié, mais écouta de façon à ne pas perdre une syllabe de ce qu'allait dire la reine. Eh bien, demanda le roi, eh bien, monsieur, la comtesse de Charny et mon ancienne amie, mademoiselle André de Tavernay, ne trouvez-vous point qu'à notre retour à Paris, il serait bon que je donnasse congé à monsieur de Charny afin qu'il pût rassurer sa femme? Il a couru de grands risques, son frère a été tué pour nous, je crois que lui demander la continuation de ses services près de vous, sire, serait faire une chose cruelle à ces deux époux. Barnave respira et ouvrit de grands yeux. Oh, vous avez raison, madame, répondit le roi, quoique, à vrai dire, je doute que monsieur de Charny accepte. Eh bien, dans ce cas, dit la reine, chacun de nous aura fait ce qu'il devait faire, nous en offrant ce congé à monsieur de Charny en le refusant. La reine sentit en quelque sorte, par une communication magnétique, se détendre l'irritation de Barnave. En même temps, lui, cœur généreux, comprenant son injustice vis-à-vis de cette femme, il en eut honte. Il s'était alors jusque-là tenu la tête haute et insolente comme un juge devant un coupable qu'il avait droit de juger et de condamner, et voilà que tout à coup cette coupable, répondant à une accusation qu'elle ne pouvait deviner, disait le mot ou de l'innocence ou du repentir. Mais pourquoi pas de l'innocence ? Nous serons d'autant plus forts, continua la reine, que nous n'avons pas emmené monsieur de Charny et que moi je le supposais, pour mon compte, bien tranquille à Paris, quand je l'ai vu apparaître tout à coup à la portière de la voiture. C'est vrai, répondit le roi, mais cela vous prouve que le comte n'a pas besoin d'être stimulé lorsqu'il croit accomplir son devoir. Elle était innocente, il n'y avait plus de doute. Oh, comment Barnave se ferait-il pardonner de la reine cette mauvaise pensée qu'il avait eue contre la femme ? Adresser la parole à la reine, Barnave n'osait pas. Attendre que la reine parlât la première, mais la reine, satisfaite de l'effet qu'avait produit le peu de paroles qu'elle avait dites, la reine ne parlait plus. Barnave était redevenu doux, presque humble. Barnave implorait la reine du regard, mais la reine ne paraissait faire aucune attention à Barnave. Le jeune homme était dans un de ces états d'exaltation nerveuse où, pour être remarqué d'une femme inattentive, on entreprendrait les 12 travaux d'Hercule, au risque de succomber dès le premier. Il demandait à l'être suprême. En 1791, on ne demandait déjà plus à Dieu. Il demandait à l'être suprême de lui envoyer une occasion quelconque d'attirer sur lui les yeux de la royale indifférente, lorsque tout à coup, comme si l'être suprême eût entendu la prière qui lui était adressée, un pauvre prêtre qui attendait sur le bord de la route le passage du roi, s'approchant pour voir de plus près l'auguste prisonnier, leva au ciel ses yeux pleins de larmes et ses mains suppliantes en disant « Sire, Dieu garde votre majesté !» Il avait longtemps que le peuple n'avait eu le sujet ou le prétexte de se mettre en colère. Rien ne s'était présenté depuis qu'on avait mis en morceaux le vieux chevalier de Saint-Louis, dont la tête suivait toujours, portée au bout d'une pique. Une occasion lui était enfin offerte, il la saisit avec empressement. Au geste du vieillard, à la prière qu'il prononçait, le peuple répondit par un rugissement. Il se jeta sur le prêtre en un instant, et avant que Barnave fût tiré de sa rêverie, le prêtre était renversé à terre et allait être écharpé, quand la reine épouvantée s'écria, s'adressant à Barnave, « Monsieur, ne voyez-vous pas ce qui se passe ?» Barnave releva la tête, plongea un regard rapide vers l'océan d'où venait de disparaître le pauvre vieillard et qui roulait en vagues tumultueuses et grondantes autour de la voiture, et voyant ce dont il s'agissait, « Oh, misérable ! » s'écria-t-il en s'élançant avec une telle violence que la portière s'ouvrit et qu'il fut tombé, si, par un de ses premiers mouvements du cœur si prompt chez madame Élisabeth, celle-ci ne l'eût retenu par la basque de son habit. « Oh, tigre, vous n'êtes donc pas des Français, ou la France, le peuple des braves, est devenu un peuple d'assassins ?» L'apostrophe nous paraîtra peut-être à nous un peu prétentieuse, mais elle était dans le goût du temps. D'ailleurs, Barnave représentait l'Assemblée nationale, c'était le pouvoir suprême qui parlait par sa voix. Le peuple recula, le vieillard fut sauvé. Il se releva en disant « Vous avez bien fait de me sauver, jeune homme, un vieillard priera pour vous. » et faisant le signe de la croix, il se retira. Le peuple le laissa passer, dominé par le geste et le regard de Barnabe, qui semblait la statue du commandement. Puis, quand le vieillard fut loin, le jeune député se rassit simplement, naturellement, n'ayant pas l'air de se douter qu'il venait de sauver la vie à un homme. « Monsieur, dit la reine, je vous remercie. » Et à ces seules paroles, Barnabe frissonna de tout son corps. C'est que, sans contredit, pendant cette longue période que nous venons de parcourir avec la malheureuse Marie-Antoinette, elle avait été plus belle, mais aussi plus touchante. En effet, au lieu de trôner comme une reine, elle trônait comme une mère. Elle avait à sa gauche le dauphin, charmant enfant aux cheveux blonds, qui était passé, avec l'insouciance et la naïveté de son âge, des genoux de sa mère entre les jambes du vertueux Pétion, lequel s'humanisait au point de jouer avec ses cheveux bouclés. Elle avait à sa droite sa fille, Madame Royale, qui semblait un portrait de sa mère à la première fleur de la jeunesse et de la beauté. Enfin, elle-même, elle avait, à la place de la couronne d'or de la royauté, la couronne d'épines du malheur. Et au-dessus de ses yeux noirs, de son front pâli, sa magnifique chevelure blonde, au milieu de laquelle brillaient quelques fils d'argent venus avant l'âge et qui parlaient plus éloquemment au cœur du jeune député que n'eût pu faire la plainte la plus douloureuse. Il contemplait cette grâce royale et se sentait tout prêt à tomber aux genoux de cette majesté mourante lorsque le jeune dauphin jeta un cri de douleur. L'enfant avait fait au vertueux Pétion, je ne sais quelle espièglerie, dont celui-ci jugeait à propos de le punir en lui tirant vigoureusement l'oreille. Le roi rougit de colère, la reine pâlit de honte. Elle étendit les bras et enleva l'enfant d'entre les jambes de Pétion, et, comme Barnabe fit le même mouvement qu'elle, le dauphin, transporté par leurs quatre bras et tiré à lui par Barnabe, se trouva sur les genoux de ce dernier. Marie-Antoinette voulut l'attirer sur les siens. « Non, dit le dauphin, je suis bien ici. » Et comme Barnabe, qui avait vu le mouvement de la reine écarter les bras pour la laisser libre dans l'exécution de sa volonté, la reine, était-ce coquetterie de mère, était-ce séduction de femme, laissa le jeune prince où il était. Il se passa en ce moment dans le cœur de Barnabe quelque chose d'impossible à rendre. Il était fier et heureux tout à la fois. L'enfant se mit à jouer avec le jabot de Barnabe, puis avec sa ceinture, puis avec les boutons de son habit de député. Ces boutons surtout occupèrent le jeune prince. Il portait une devise gravée. Le dauphin épela les lettres les unes après les autres et finit en les assemblant par lire ces quatre mots « Vivre libre ou mourir ». « Qu'est-ce que cela veut dire, monsieur ? » demanda-t-il. Barnabe hésita à répondre. « Cela veut dire, mon petit bonhomme, expliqua Pétion, que les Français ont fait serment de n'avoir plus de maître. Comprends-tu cela ?»« Pétion ! » s'écria Barnabe. « Eh bien, mais, répondit Pétion, le plus naturellement du monde, explique la devise autrement, si tu lui connais un autre sens. » Barnabe se tut. Cette devise qu'il trouvait sublime la veille lui semblait presque cruelle dans la situation présente. Mais il prit la main du dauphin et abaissa respectueusement ses lèvres sur cette main. La reine essuya furtivement une larme montée de son cœur à sa paupière. Et la voiture, théâtre de ce petit drame étrange, simple jusqu'à la naïveté, continua de rouler à travers les cris de la foule grondante, conduisant à la mort 6 des 8 personnes qu'elle contenait. On arriva à Dormans.